une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Robin Lemoine, journaliste indépendant spécialisé en sciences économiques et sociales. Salut Robin.
Salut Emmanuel.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de conflits d'usage, d'hydrogène et de Jean-Baptiste Djebbari.
Vous vous imaginez déjà, hein ? Assis tranquillement en classe éco dans votre avion écolo. Avec lui, tous nos problèmes s'envolent. On ne se sent plus responsable de polluer la planète pour découvrir les joies de notre monde. La honte disparaît. Les emplois et les profits du secteur sont sécurisés. Le monde politique est content. Bref, tout le monde est content. Mais spoiler alerte, vous allez devoir attendre longtemps pour accéder à cet avion. Il est même possible que vous ne puissiez jamais monter dedans. Pour autant, le secteur de l'aviation y croit. En même temps, il en va de sa survie.
Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?
En octobre 2021, 290 compagnies aériennes, membres de l'Association internationale du transport aérien, se sont engagées à atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici 2050 pour lutter contre le réchauffement climatique et, je cite, « assurer la liberté de voler des générations futures ». Du côté du gouvernement français, on y croit aussi. Pour cela, il suffit de voir les déclarations de l'ex-ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ou du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. La France a même des objectifs très ambitieux. Elle souhaite que l'industrie française parvienne à sortir et à commercialiser un avion neutre en carbone en 2035. Pour cela, l'État a soutenu le secteur à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Mais alors, peut-on vraiment y croire à cet avion zéro carbone ? Quelle solution pour décarboner ce secteur en à peine 26 ans ? Quels seront les besoins d'investissement et devra-t-on tout simplement voler moins ? L'avion sera-t-il un jour écolo ? Bon, tout d'abord, on peut se dire, l'avion, ça pollue pas beaucoup par rapport à d'autres secteurs. C'est vrai. Aujourd'hui, le secteur aérien ne représente que 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Mais tout de même, rien que la combustion du carburant correspond à environ 1 milliard de tonnes de CO2 sur une année, soit l'équivalent des émissions du Japon.
Ah, c'est... Ça ne laisse pas indifférent.
C'est donc loin d'être négligeable. Et cela sans compter les effets hors CO2 qui pèsent aussi sur le climat. Il y a par exemple l'effet des traînées de condensation qui a aussi un effet réchauffant sur le climat. Mais ces effets sont difficiles à calculer. Plusieurs études indiquent que prendre en compte ces effets reviendrait à doubler, voire tripler, l'impact de l'avion sur le réchauffement climatique. On pourrait dire aussi, par rapport à d'autres transports, le secteur aérien pollue moins. Si on regarde globalement, c'est vrai. Les 3/4 des émissions liées au transport sont dues aux camions, bus et voitures. L'aérien, c'est environ 12%. La raison est simple. En distance totale, les humains utilisent beaucoup plus le transport routier. Mais si l'on regarde au niveau individuel et au trajet, qui sont souvent plus longs en avion, l'aérien explose tout. Par exemple, en prenant un vol aller-retour Paris-New York, vous rejetez quasiment 2 tonnes d'équivalent CO2, ce qui représente 20% des émissions annuelles d'un Français moyen.
On pourrait aussi te répondre que le secteur aérien a déjà fait de gros efforts pour réduire sa consommation de carburant.
Tout à fait. Avec la nouvelle génération d'avions, la consommation de kérosène par passager et kilomètre a été divisée par plus de 2 entre 1990 et 2018, et par conséquent, les émissions par passager aussi. Mais dire seulement ça, c'est oublier le fameux effet rebond. J'en ai discuté avec Stéphane Amand, consultant mobilité pour Carbone 4.
Ce qui a été divisé par 2, c'est la quantité de carburant consommé par passager kilomètre. Parce que les avions sont mieux remplis, les avions intrinsèquement sont plus performants. Et donc, ils consomment moins individuellement, voilà, on consomme moins par passager transporté. Par contre, comme le trafic a énormément augmenté, les émissions ont elles aussi beaucoup augmenté. Si on rentre dans les chiffres, c'est vrai que on peut retenir que entre 90 et 2018, on va dire en 30 ans, on a divisé la consommation par passager transporté par plus de 2, mais dans le même temps, on a multiplié par plus de 2 les émissions totales, parce qu'entre-temps, le trafic a été multiplié par environ 5 depuis 30 ans. Donc, c'est pour ça qu'au total, les émissions augmentent.
Pour résumer, comme le coût carburant coûte moins cher, voler coûte moins cher, donc plus de gens volent et donc on pollue plus.
Bon d'accord, c'est compris pour les problèmes environnementaux de l'avion. Mais Robin, on ne peut pas laisser ce secteur mourir. Il est trop important, et notamment pour la France.
Effectivement, l'aérien pèse gros. Si l'on prend en compte tous les agents de la chaîne, constructeurs, compagnies aériennes, sous-traitants, bref, tout le monde, le secteur représente 4% du PIB mondial et 88 millions d'emplois. En France, l'avion, c'est 4,3% du PIB et plus de 600 000 emplois. J'en ai discuté avec Yves Crozet. Il est économiste au laboratoire Aménagement Économie Transport.
Si vous prenez les compagnies aériennes, les constructeurs d'avions et tous les sous-traitants qui sont extrêmement nombreux, on est à terme à plusieurs centaines de milliers d'emplois. Donc on est peut-être aujourd'hui avec un nombre d'emplois plus élevé que dans l'automobile française qui a perdu beaucoup en termes de construction de véhicules. Et en plus, c'est fondamental pour la balance commerciale, puisque quand chaque mois, on vend des dizaines d'avions Airbus et on en a besoin pour éviter un déficit commercial trop important. Donc, du point de vue stratégique, l'avion est absolument fondamental. Et c'est pour cela que le gouvernement soutient le transport aérien, parce qu'on ne peut pas dire, pour des raisons d'environnement, on va tout fermer à Toulouse, à Bordeaux et ailleurs. Ce qui fait la base économique de la France, c'est ce qu'elle est capable d'exporter à l'extérieur pour acheter ce dont elle a besoin. Donc, elle exporte des produits agricoles, elle exporte des avions. La France ne peut pas dire demain, j'arrête de faire des avions, et puis en plus, j'arrête de faire des produits agricoles parce que ça pollue la planète. Parce qu'à ce moment-là, notre base économique va se rétrécir, donc notre niveau de vie, donc nos capacités de dépenses privées et publiques.
Donc on comprend bien pourquoi le gouvernement croit autant dans l'avion vert. En réalité, dans le système économique actuel, il n'a pas trop le choix.
Alors, rentrons un peu dans l'aspect technologique. Est-il possible d'innover et de créer un avion vert ?
Alors, plusieurs possibilités technologiques sont à l'étude pour rendre le secteur neutre en carbone. C'est Stéphane Amand qui m'a expliqué tout ça. Prenons les solutions une par une. D'abord, il y a les batteries électriques. Au-delà de tous les enjeux économique, très bien expliqué par Emmanuel dans son épisode sur ce sujet, cette solution est peu envisageable pour les avions de ligne moyenne et longue distance. Pourquoi ? Eh bien parce que la masse des batteries nécessaires serait beaucoup trop importante. En gros, pour faire décoller un A320 de 80 tonnes, il faudrait 180 tonnes de batteries, résume Stéphane Cueil, patron de Safran. D'ailleurs, les principaux concepts à l'étude sont centrés sur l'hybridation et pas le 100% électrique, sauf pour les très petits avions volant sur de courtes distances.
Ensuite, il y a l'hydrogène, bien évidemment.
Exactement. L'hydrogène est d'ailleurs vu comme le carburant du futur pour Airbus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de mais. Tout d'abord, le moteur à hydrogène peut ne pas émettre de pollution ni aucun gaz à effet de serre, du moins s'il est produit par électrolyse de l'eau, on vous passe les détails techniques, et en utilisant une électricité décarbonée, évidemment. Sauf que, comme les batteries, une question de place s'impose. Car même sous sa forme liquide, il prend 3 fois plus de place que le kérosène. Stéphane Amand.
Ce qui veut dire, en gros, en pratique, sur un avion, c'est que pour emmener la même quantité d'énergie qu'aujourd'hui, il va falloir des réservoirs beaucoup plus gros, et donc notamment un fuselage adapté. C'est donc un avion qui, normalement, va emmener moins de passagers. Et donc, économiquement, ça va être pénalisant. C'est des avions qui, sur le papier, sont de toute façon moins optimisés que des avions fonctionnant avec du kérosène.
Et puis, comme vous l'imaginez, cela va demander de modifier tout l'écosystème aéroportuaire. Production de l'hydrogène, stockage, ravitaillement des avions, etc. Et de revoir les systèmes de sécurité des avions. Donc beaucoup, beaucoup d'investissements. Et puis cet avion pose 2 autres questions. Tout d'abord, créer de l'hydrogène vert demande beaucoup d'énergie bas carbone. C'est ce que montre une étude réalisée par l'Atelier d'écologie politique de Toulouse. Selon ces scientifiques, pour faire voler à l'hydrogène propre tous les avions qui se sont posés ou ont atterri seulement à l'aéroport de Roissy en un an, il faudrait 10 000 à 18 000 éoliennes ou 16 réacteurs nucléaires.
Ah ouais, quand même.
Problème, tous les secteurs et les citoyens ont besoin aussi de cette énergie bas carbone pour demain, et pas seulement l'aérien. Peu probable donc que la France décide d'utiliser toutes ses ressources et cet hydrogène seulement pour l'avion. Il y aura donc ce qu'on appelle des conflits d'usage. L'hydrogène pose également des problèmes de coût. Yves Crozet.
Alors, le problème économique avec l'hydrogène, c'est que son coût de fabrication, s'il s'agit d'hydrogène vert, son coût est extrêmement élevé, puisqu'il faut produire de l'électricité, puis avec de l'électrolyse, fabriquer l'hydrogène, et puis ensuite, avec cet hydrogène, on va soit le brûler comme un combustible, soit refaire de l'électrolyse dans une pile à combustible. Donc, on ajoute des étapes, donc on ajoute des coûts, et donc, comme disent les économistes, on alourdit le processus de production.
Par ailleurs, Airbus a annoncé son intention de développer un avion à l'hydrogène qui entrerait en service au mieux en 2035. Celui-ci pourrait couvrir un rayon de 1500 km, soit une portée régionale. Sauf que ce type de vol ne représente que 6% 10% des émissions de l'aviation. Pour les avions qui vont plus loin, il faudrait attendre 2040-2045. Mais cela ne veut pas dire qu'en 2045, tous les avions seront à hydrogène. Si l'on souhaite que tous les avions marchent à l'hydrogène, il faudra encore 10 à 20 ans pour que la flotte soit totalement renouvelée. Et oui, parce qu'il faut les acheter, ces avions. D'ailleurs, l'ONG ICCT estime que l'hydrogène pourrait contribuer à la décarbonation de l'aviation à hauteur de 6 à 12% en 2050. Pas suffisant donc pour atteindre l'objectif.
Tu ne nous as pas parlé encore des carburants alternatifs. Ça peut être intéressant, non ?
Alors oui, bien sûr, on les appelle les SAF, pour Sustainable Aviation Fuels.
Be proud of you, because you can be do what we want to do. Thank you.
Il y a les agrocarburants produits à partir de biomasse et les e-carburants produits à partir d'électricité, d'eau et de CO2. Ils ont deux intérêts majeurs. De un, leur intérêt environnemental assez élevé, et de deux, ils peuvent être utilisés dans les moteurs actuels. Cela permet aux constructeurs d'investir moins dans leur recherche et pour le secteur de ne pas renouveler toute la flotte d'un coup. Mais là encore, des problèmes se posent. Du côté des e-carburants, eux aussi demandent beaucoup d'énergie. Et donc là aussi, il y aura une concurrence des usages sur une électricité décarbonée dont la production ne sera pas infinie. Même chose du côté des agrocarburants. Les ressources en biomasse durable qui permettent de les produire sont limitées et seront disputées entre différents secteurs. Si la quantité de biomasse durable est suffisante en regardant uniquement l'aviation, elle ne l'est pas en prenant en compte tous les secteurs. Autre problème, celui de la biodiversité. Car la production massive d'agrocarburants en culture intensive entrera d'une part en concurrence avec la nécessité d'une agriculture biologique et aura des conséquences environnementales. Fragilisation des sols, menaces sur la biodiversité et altération du cycle de l'eau. Dernier problème, comme pour l'hydrogène, ces deux types de carburants sont à l'heure actuelle 2 à 5 fois plus chers que le kérosène. En conclusion de cette analyse technologique, je laisse la parole à Yves Crozet.
Les politiques, ils ont besoin de trouver des solutions. Ils ont un problème, il faut qu'ils présentent des solutions. Ils ne peuvent pas dire « Ah ben, on ne peut rien faire, c'est comme ça ». Donc, on l'a vu pour l'aérien, « Ah ben, on va faire des avions à hydrogène ». Voilà, comme ça, on pointe l'horizon, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on a apparemment une solution. Et pour les carburants, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des solutions locales. Il est vrai qu'on peut faire fonctionner un avion avec un agrocarburant. Et de ces solutions locales, on fait une hyperbole. C'est-à-dire qu'on dit ben, « on n'a qu'à généraliser ». Il n'y a qu'à généraliser la substitution entre le gazole et les nouveaux carburants liquides. Et le problème, c'est que cette hyperbole, cette généralisation abusive pose tout un tas de problèmes et les solutions locales ne sont pas des solutions globales.
En bref, si le secteur de l'aviation présage une croissance de son activité, il va être compliqué pour lui d'atteindre son objectif de 2050. D'autant que le besoin d'investissement est énorme et le 1,5 milliard du gouvernement ne changera pas la donne. Yves Crozet.
Ce que l'on peut dire, c'est qu'avec ce 1,5 milliard, c'est un petit peu comme au poker, quoi. On met un peu d'argent pour voir. Parce que si on doit vraiment faire des recherches et si les choses se précisent, il faudra mettre, bien sûr, plusieurs milliards, soit à l'échelle mondiale, plusieurs dizaines de milliards d'euros, comme cela a été fait quand on a voulu développer des avions comme le Boeing 747 ou les Airbus. Il a fallu mettre des milliards d'argent dans la recherche et avec des aides publiques. Donc, ce qui a été fait pour l'instant, c'est simplement, on met un petit peu d'argent sur la table pour voir ce qui se passe. Et je pense que dans quelques années, on verra ce qu'il en est. L'objectif de la neutralité carbone en 2050 est ambitieux, voire présomptueux. Parce qu'on part du principe que la substitution fonctionnera. Qu'on va pouvoir substituer des énergies propres aux énergies sales et que cela se pourra se faire à des coûts supportables. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des effets rebonds, les coûts peuvent être élevés et on peut avoir des retours en arrière.
Donc, si on se base simplement sur les nouveaux carburants, la neutralité carbone du secteur en 2050, c'est pas gagné. Mais alors, c'est quoi les autres solutions ?
Pour faire simple, même si toutes ces solutions sont mises en place, que des prouesses technologiques inespérées arrivent et que les nouvelles générations d'avions consomment moins de kérosène et sont plus remplies, il faudra tout de même réduire le trafic. Sauf que pour le moment, le secteur ne joue absolument pas la carte de la sobriété. En effet, le secteur s'attend à une forte croissance de minimum 3% par an. C'est même le Haut Conseil pour le climat qui le dit dans un rapport. Je cite « La stratégie de décarbonation de l'aérien n'est pas engagée, malgré les démonstrateurs technologiques et industriels, et n'intègre pas la maîtrise de la demande. » Donc si le secteur veut être neutre en carbone, il faudra voler moins. Pour cela, trois mécanismes peuvent voir le jour. Tout d'abord, la hausse des coûts pour les compagnies, investissement massif, achat de nouveaux avions, nouveaux carburants plus plus cher peut inciter les compagnies à augmenter les prix des billets, ce qui pourrait faire baisser la demande. Ensuite, les États pourraient augmenter volontairement le prix des billets. Deux solutions existent. L'obligation pour le secteur d'acheter des crédits carbone, sauf que cela ne fonctionne pas vraiment pour limiter le trafic, notamment parce que les crédits carbone sont trop peu chers. Pour en savoir plus, on vous laisse lire le papier de Carbone 4. On peut aussi taxer directement les activités du secteur. Problème de ces deux mécanismes, cela rendrait l'accès à l'avion encore plus inégalitaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour rappel, moins de 1% de la population mondiale est responsable de plus de 50% des émissions de l'aviation et 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion. Troisième solution, celle de la sobriété régulée. Les États peuvent par exemple supprimer certaines liaisons, rendre obligatoire un certain taux de remplissage, réduire les vols disponibles ou interdire la construction de nouveaux aéroports. On peut aussi contraindre les individus en régulant par les quantités. L'idée est de dire, vous ne pouvez pas prendre l'avion plus de 2, 3 ou 4 fois par an. Si vous voulez voler plus, vous devez acheter des vols à ceux qui n'en ont pas l'usage. On pourrait mettre en œuvre ce mécanisme avec une carte carbone dont je vous avais déjà parlé dans Splash. Yves Crozet.
Il y a eu un projet de loi qui a été déposé par Delphine Bateau et François Ruffin il y a maintenant 2 ans et qui proposait de limiter à une fois par an le fait de prendre l'avion. Ces solutions-là, peut-être qu'on sera obligé d'y arriver si vraiment on avait besoin de mettre en place une sobriété très forte. Les techniques de rationnement, c'est quand même quelque chose de très compliqué à mener. Alors quand vous êtes en guerre, effectivement, on fait des tickets de rationnement. Mais c'est quand même des systèmes, j'entends parler parfois de dictature climatique absolument indispensable. Quand j'entends dictature climatique, moi j'entends d'abord dictature, avant d'entendre climatique. Donc je suis relativement méfiant avec un système de ce type-là.
Et puis, comme le disent les deux experts, rendre l'avion inaccessible pourrait mettre une partie de la population très en colère. Les familles qui vivent dans des pays différents, ceux qui veulent découvrir de nouvelles cultures, ceux qui ont besoin de voyager pour leur travail. Donc tu vois Emmanuel, pour l'avion comme pour le reste de l'économie, atteindre la neutralité carbone en 2050, ça va être très 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 compliqué.
Oui je vois, mais imaginons qu'on réduise le trafic. Les conséquences économiques et sociales vont être terribles pour la France.
Oui tout à fait. D'ailleurs on l'a bien vu pendant la crise Covid où la quasi-totalité des vols ont été mis à l'arrêt. L'État et l'UE ont mis des milliards d'euros sur la table pour sauver le secteur aérien et ses emplois. Ce qui est certain pour les deux experts, c'est que notre économie ne pourra pas laisser tomber ce secteur au vu de son poids économique. En tout cas, l'aérien ne pourra plus fonctionner comme avant, du moins s'il souhaite atteindre la neutralité carbone. Si tel est le cas, il faudra en tout cas s'en occuper et investir lourdement dans la reconversion de nombreux travailleurs et travailleuses du secteur. Pour être bien clair, il est tout à fait possible que certains avions soient verts d'ici 2050, notamment pour les courts et moyens courriers. Mais l'objectif de neutralité en 2050 est une mission presque impossible pour l'aérien. Du moins, s'il souhaite nous faire voler toujours davantage. Le problème, c'est que l'industrie et la demande de voyage de certains pèsent lourd dans la décision politique. L'avion se trouve alors dans une équation quasiment insolvable.
Merci Robin pour ce bel épisode. Pour vérifier nos dires, on vous invite fortement à lire toutes les sources que nous avons consultées. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Robin Lemoine, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'Arrière Boutique Studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin, produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice des productions Marion Gourdon, directrice artistique Aurore Mailleux, chargée de production Mathilde Jonin, avec l'aide de Neila Agnew.